I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, c'est toujours la trêve tennistique. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des commentaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans Deep Talk Julien Bouterre. Salut Julien.
Salut Arnaud.
Ancien joueur de tennis, rappelons-le quand même, parce qu'on va en parler un petit peu, hein, c'est important, revenir un peu rapidement, mais parce qu'on va parler d'autres choses, mais rapidement de ton parcours, et surtout depuis de nombreuses années, directeur du tournoi de Metz, alors Open de Moselle, Moselle Open.
Moselle Open, c'est son Moselle. Dernier nom, voilà, depuis maintenant quelques années.
Moselle Open, et ça fait quoi depuis 2011, hein, c'est ça?
Le tournoi?
Non, toi, que tu es directeur du tournoi.
2009 directeur du tournoi. Ouais, ça a été compliqué parce qu'il y a une direction sportive et puis voilà, on a eu aussi une vie mouvementée, j'ai envie de dire. Donc non, mais il n'y a pas de souci.
Bon, écoute, avant de revenir là-dessus, parce que ça nous intéresse fortement avec un calendrier chamboulé à l'ATP, des grosses difficultés, mais on va revenir rapidement sur ton parcours. Tu as été joueur de tennis, je le rappelais justement, mais est-ce que tu étais prédestiné à ça, toi? Juste pour que tu nous racontes. Alors, je sais qu'on pourrait en parler des heures, mais assez synthétique.
Je vais essayer d'aller rapidement. Alors, moi, j'ai toujours eu une culture sportive dans la famille, puisque jusqu'à 16 ans ou 17 ans, je faisais 5 sports différents. Mais non, moi, pas du tout. Moi, je voulais être… j'avais deux souhaits. C'était soit être un ingénieur ou alors être maître de conférence et enseigner le tennis. Parce que voilà, j'aime beaucoup l'enseignement, l'éducation, et c'était un petit peu mes souhaits, mes parcours. Il s'est trouvé qu'après mon année de licence, je devais faire l'armée, et c'était pour moi, entre guillemets, quelque chose qui était… je voulais tout faire pour l'éviter, et il s'est trouvé que c'était la période où l'armée n'était plus obligatoire, mais que le bataillon Joinville, qui était pour les sportifs de haut niveau, était toujours actif. Et j'ai fait une demande au dernier moment, parce que j'avais un bon niveau régional, puisqu'à 21 ans, j'étais moins 15. Et j'ai demandé pour faire le bataillon Joinville. Et j'ai eu l'agréable surprise de dire, OK, on vous accepte. Et je me suis retrouvé avec des jeunes qui avaient 4 ans de moins que moi, qui venaient d'avoir 18 ans et qui étaient tous bien meilleurs que moi. Et c'est là où je me suis dit, pendant une année, je vais en profiter, je vais jouer au tennis. Et donc, je me suis inscrit toutes les semaines à des tournois, puisque c'était la seule condition à l'époque pour ne pas être à Fontainebleau et être, entre guillemets, sous les drapeaux. Et donc, j'ai fait des tournois pendant 10 mois, toutes les semaines. Et puis, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, je me suis structuré. C'est certainement ce que m'a apporté aussi le milieu universitaire, technologique et autres, pour savoir qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qu'il faut que j'aille chercher. Alors, je n'avais jamais appris à jouer au tennis. Je jouais de façon instinctive comme un joueur de club. Et donc, je me suis mis à tout réapprendre à partir de là. Je me suis entouré, parce que je n'avais jamais fait un footing de ma vie jusqu'à 21 ans. Et donc, j'ai commencé à travailler beaucoup physiquement. Et puis, j'ai eu une carrière relativement courte puisque j'ai arrêté à 29 ans. Et donc, effectivement, c'est un accident de parcours, le fait d'être sportif professionnel et joueur de tennis professionnel. Mais ça a été une très belle parenthèse, puisque après, toute ma reconversion professionnelle a été orientée et guidée par cette carrière. Donc c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu, puisque pour rappel, moi, à 17 ans, j'étais 15 ans. Donc on était pas
15 ans à 17 ans. Ah ouais, donc on prend souvent l'exemple d'Arnaud Clément qui était zéro à 18 ans, mais ouais, toi, tu étais encore un niveau bien en dessous. Ah ouais.
Oui, je ne faisais pas partie
des. Très, très loin.
Ouais, bah la première fois que j'étais champion de Lorraine, c'était à 18 ans. Donc,
Ouais, comme quoi, enfin, faut y croire, quels que soient un petit peu les parcours, ça existe. Et c'est aussi pour ça, justement, tu vois, que je voulais qu'on en parle de tout ça. Éclosion un peu tardive. Mais c'était finalement quand même le sport. Parce que tu disais que tu faisais cinq sports jusqu'à 17 ans. C'était quand même
ouais.
forcément le sport dans lequel tu étais le meilleur.
Des sports très variés, puisque j'ai fait du judo, escrime, boxe, tennis, ski et handball. Donc, mais des sports très complémentaires. Et il s'est trouvé, comme en plus j'étais dans une filière qui était technique, moi j'avais 45 heures de cours par semaine, et ben à 17-18 ans, j'ai dû abandonner tous les autres sports, puisque le seul qui me permettait une pratique vraiment à la carte, ça a été le tennis. En fait, puisque là, je sortais de cours et à 19h-20h, je pouvais aller jouer avec les copains et autres. Et c'est le seul sport qui m'a permis de maintenir une certaine régularité dans le jeu.
Et donc derrière, tu fais quand même une super carrière. Tu es dans le top 50 en simple, top 30 en double. Donc tu joues beaucoup le double aussi. Tu joues
Bah, toutes
beaucoup le
les
double, c'est
semaines, en
très
fait.
bien.
Oui, puisque je suis après, moi je suis pas forcément, je suis sportif, mais je suis d'abord joueur, puisque les jeux que j'ai ou les sports que j'ai pratiqués, c'est beaucoup de jeux. Et effectivement, toutes les semaines, jouer à simple et double, parce que le partage, et puis j'ai eu la chance d'avoir quand même des beaux partenaires, puisque voilà, j'ai joué avec des joueurs comme Clément, Laudra, Santoro, Cheng Schalken. De façon un peu régulière, Max Mirny. Donc voilà, ça a été tout des parcours et puis des moments de partage qui avaient beaucoup de sens dans un sport individuel.
T'as été surpris quand même, parce que quand tu évoques justement ce parcours, il est quand même très atypique. T'es surpris d'être allé aussi haut avec autant de retard? T'y as toujours cru, ou à un moment comment tu as pu te dire justement, je vais quand même y arriver?
Moi, j'étais dans la situation opposée, par exemple, à un mec comme Richard, qui a 12-13 ans, on disait, bah, tu seras le futur Sampras ou Federer ou ainsi de suite. Moi, je n'ai jamais eu aucune pression. Je suis rentré, j'ai commencé à jouer. Je me suis dit, bah, tiens, ça serait cool que je rentre dans les 300 meilleurs joueurs du monde. Et puis après, quand j'étais dans les 300, j'ai dit, allez, bah, on va essayer de rentrer dans les 150. Et puis petit à petit, bah, on progresse. Mais c'est vrai que après, j'étais déçu puisque j'étais obligé d'arrêter sur blessure. Et c'était le moment où je comprenais vraiment le tennis et où je maîtrisais tout mon jeu, le savoir-faire, ce que j'avais appris pendant 5-6 ans. Et ça commençait à. Je commençais à avoir une régularité. Mais après, c'est les choses de la vie. Le seul regret, c'est de dire bah oui, pas avoir construit mon corps physiquement dès 14-15 ans. Parce que moi, je me suis mis des grosses doses de travail physique, mais à 21 ans, quand le corps est déjà formé et ainsi de suite, et on sait que l'apprentissage et surtout le fait, les acquis sont beaucoup plus compliqués à maintenir et à garder quand c'est fait après croissance. Donc voilà, c'est peut-être le seul regret que j'ai, mais je me dis même pas, parce que est-ce que j'aurais eu la même faim, la même envie ou la même maturité de vraiment se structurer comme on structure une entreprise ou un travail en termes de planning, de compétences. Et puis surtout, je suis venu avec un regard complètement neuf et je me suis beaucoup inspiré d'autres disciplines parce que je me suis beaucoup entraîné à l'INSEP ou avec des personnes qui étaient d'un monde extra-tennis. Et ça m'a permis bah, peut-être de ne pas reproduire des choses que les aînés reproduisaient de façon un petit peu automatique ou autre, qui n'étaient pas forcément des choses optimales, et c'est peut-être pour ça que j'ai pu, entre guillemets, combler un retard et puis avancer, travailler dans d'autres domaines qui n'étaient pas forcément quelque chose de très ancré dans le monde du tennis. Donc, c'est comme tout, les parcours ont des avantages et des inconvénients, mais non, c'était
Ouais,
vraiment une belle parenthèse. Ouais.
c'est plutôt une très belle carrière. Et donc, le tennis, en gros, c'est quand même ce que tu dis, c'est ce qui émerge, ce qui ressort à chaque fois. Donc, c'est ta passion. Tu restes aujourd'hui, tu es encore dans le tennis. Donc, la transition, elle se fait comment, toi? Après ta carrière, tu sais déjà où tu vas aller, ce que tu vas faire? Tu te poses des questions?
Non, bah pas du tout, puisqu'en fait, moi, je pense continuer jusqu'à la moyenne. C'était, on voyait les joueurs jouer quand même jusqu'à 33, 35 ans. On avait possibilité de maintenir justement au moins ce niveau physique qui permettait d'être compétitif. Donc moi, je pensais encore avoir 4-5 ans devant moi. Et c'est vrai que cette blessure au dos m'a contraint à arrêter très vite puisque j'ai fait Wimbledon. C'était mon dernier tournoi et je décide 15 jours après d'arrêter complètement, de ne pas me faire opérer et autres. Et c'est vrai qu'il y a eu un concours de circonstances aussi à ce moment-là, c'est qu'il y a l'explosion d'AZF à Toulouse. Je rencontre à Indian Wells Patrice Dominguez et je lui dis ben, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as trouvé un lieu ou un site pour organiser le tournoi? Il me dit non, j'ai fait toute la France. Mais je lui dis ben, nous, on a un nouveau stade, les Arènes de Metz qui ont été construites récemment. Moi, je connais le monde économique, monde institutionnel sur mon territoire. Est-ce que ça te dit de… Et puis, c'est là que l'aventure du Moselle Open, c'était la date de Toulouse, ben, qui vient en 2003 à Metz. Et c'est comme ça que commence le Moselle Open. Mais moi, entre-temps, j'ai une année où je ne sais pas du tout quoi faire et je m'enferme, entre guillemets, dans une vieille maison et je la retape de A à Z pendant… ça a duré 11 mois. Où je me suis enfermé dedans parce que je ne savais pas trop quoi faire justement. Et donc, comme j'avais besoin de retrouver aussi un ancrage et puis des racines dans mon territoire, parce que je suis un homme de territoire, moi, et ça m'a permis eh bien, d'allier ma passion qui est beaucoup le bricolage et le travail manuel, et puis d'avoir un pied à terre, puisque c'est vrai que tu le sais aussi bien que moi, quand on est joueur de tennis, si on dort 3-4 nuits par mois dans son lit, c'est le bout du monde. Donc, le fait de revenir aux sources et puis d'avoir un chez-soi, c'était la chose importante à ce moment-là.
Voilà, petit à petit,
progressivement. Ouais. Patrice, qui était le directeur du tournoi, moi, j'étais un petit peu là. Je l'épaulais sur la tâche avec un autre copain qui était Yvon Gérard. Et puis, j'étais consultant aussi pour Canal à cette époque-là. Et puis petit à petit, eh ben, j'ai pris de plus en plus de place dans l'organisation de l'événement. Après, j'étais aussi sous les responsabilités de Gilles Moreton, qui a été une année directeur du tournoi. Et puis après, c'était Sport 5 avec Corinne Vanier, donc, où il y a eu une co-direction du tournoi. Et puis après, on a racheté la date du Moselle Open. Et donc là, je suis devenu effectivement directeur en 2009.
D'accord, donc ça à partir de 2009. Et d'ailleurs, ce qui nous intéresse tous, j'allais dire, ce qui intéresse peut-être les gens qui vont nous écouter, c'est sur quoi, alors le Moselle Open, mais tous les autres tournois, sur quoi ça repose l'économie d'un tournoi pour essayer de comprendre un petit peu justement le fonctionnement, l'organisation, les rouages, avant de parler du contexte compliqué.
Elle est très complexe parce que en fait, il y a, on va dire, trois voire quatre types de revenus sur un événement. Et je pense qu'organiser un événement comme un 250, si on n'est pas du territoire, je trouve que c'est quelque chose qui est très compliqué. Et on le voit très clairement, que ce soit Jean-François au niveau de Marseille, que ce soit la Thierry au niveau de Lyon. À l'époque, quand Gilles avait le tournoi à Lyon aussi, c'était un Lyonnais. Et on se rend compte que cet ancrage territorial et d'être au contact des partenaires tout au long de l'année et de donner une âme au tournoi sur les 250, c'est vraiment capital. Parce qu'on se rend compte qu'on aille à Montpellier, Lyon, Marseille ou Metz, on va retrouver des 250. Mais par contre, ça va être, il va y avoir un état d'esprit ou une touche, une signature qui est de toute façon différente. Et qu'un événement comme le nôtre, il est construit avec essentiellement… Les deux, trois axes de revenus, c'est les institutions, les collectivités qui viennent. Donc, on n'a pas de subventions. Hein, nous, les tournois, ce sont des marchés, puisque on traite avec les institutions comme chez nous, avec le département de la Moselle. Ce sont des marchés où ils ont une contrepartie de la visibilité, des espaces ou autres. Et on ne fonctionne pas du tout sous forme de subvention. Donc, ça, c'est une première part. Il y a une deuxième part qui est tout ce qui est droits internationaux et droits nationaux. Donc ça, c'est l'image du tournoi. Et après, il y a, on va dire, la moitié, voire plus, c'est le lien avec les entreprises, que ce soit nous, nos partenaires, avec BNP, DLSI, toutes ces entités-là. Et le lien et le relationnel sur justement le monde économique du territoire est déterminante parce que c'est ce qu'on va vendre en termes d'espace, de loge, de package, d'RP. Et puis après, ben, il y a la billetterie. Mais on sait tous qu'à part une Coupe du Monde ou des grands événements comme Roland-Garros ou des Jeux, la billetterie sur les événements comme les nôtres, c'est entre 5 et 10, 12% des revenus. Donc ça a du sens parce qu'il faut qu'il y ait aussi là une âme et puis un public qui fasse vivre le tournoi. Mais c'est une partie quand même relativement modeste de nos revenus.
La fédération fait partie des institutions dont tu parles. Il y a de l'aide de la fédération. Oui.
La fédération au même titre, donc ça c'est aussi des liens hein, qu'on essaye de mettre en place parce que je pense que le tennis a cette chance d'être très bien quadrillé dans le monde d'une part, puisque vraiment tous les pays sont représentés et jouent au tennis pratiquement de façon équivalente, mais par contre en France voilà, on a un grand chelem, un Masters 1000, il y a 4250 plus les autres tournois féminin et challenger ou autre. Donc, on a quand même un maillage du territoire qui est très important. Et nous, en tant que 250, on a un rôle qui est déterminant. Si vous regardez des joueurs comme Joe, Richard, Gilles et Gaël ou autre, les premières finales, les premiers points sur le circuit professionnel, les premiers titres, ça a été très souvent en France. Sur les 250. Donc, on est aussi un maillage très important dans la découverte de talents, de visibilité de nos joueurs et aussi en termes de territoire, puisqu'on se rend compte, il y a une étude qui est faite tous les deux ans ou trois ans par la Fédé, s'appelle le BIPE, qui relève l'impact à la fois économique et aussi sportif du tennis sur les territoires, et on se rend compte quand il y a des 250, l'impact économique est très très important, que ce soit en termes de valeur ajoutée, en termes d'impôts, taxes, de salariés, d'emplois à temps plein. Donc on est vraiment un élément important, et c'est tout ce qu'on a essayé de travailler jusqu'à maintenant avec la fédération, c'est de leur dire que nous on fait partie de ce paysage-là, on a un rôle, on est capable de vous apporter, vous êtes capable de nous apporter, et autant travailler de façon très, très saine et ensemble pour justement un même but, développer la pratique sportive et le tennis en particulier.
Le plateau, tu en parles des joueurs, le plateau c'est un élément fondamental aussi.
J'ai envie de dire c'est très important parce que c'est ce qui permet de planter un tournoi dans un décor et dans un calendrier. C'est vrai quand on arrive chaque année à amener aller entre 8 et 10 joueurs dans les 40, ça a du sens. On rentre vraiment dans le haut niveau et dans le très haut niveau. Le fait d'avoir un ou deux top 10, ça nous permet aussi, par rapport à nos partenaires, par rapport au public, de montrer qu'on est un tournoi qui compte. Après, effectivement, on est tributaire d'une course aux garanties, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les meilleurs joueurs, c'est comme les artistes. Si vous voulez remplir le Stade de France, c'est pas avec un petit groupe de province que vous allez remplir le Stade de France. Il faut payer un artiste connu que les gens ont envie de voir. Et effectivement, on a cette chance d'avoir traversé là 10 années en France d'une génération exceptionnelle avec les joueurs que j'ai cités tout à l'heure. Et ça, c'était une grande, grande chance. Après, voilà, comme souvent, et moi le premier, le français, je ne veux pas dire qu'on est un peu blasé, mais la période qu'on a traversée jusqu'à maintenant a été juste irréelle d'avoir 4-5 joueurs qui ont été dans les 10 ou proches des 10 et qui ont été aussi très présents sur nos tournois, parce que ça, il faut le saluer et le dire. Ça a été une grande chance, parce qu'on a, on a beau dire, le public, ils viennent voir les Français. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est d'abord nos joueurs français. Et puis après, effectivement, si on arrive à voir, comme on l'a eu, des joueurs comme Nishikori, Wawrinka, ces joueurs-là, Tsitsipas, ça a du sens parce que tout de suite, voilà, ça, on touche aussi un public qui est beaucoup plus large et international. Mais là, c'est très compliqué.
Ouais. Mais donc par rapport à ça, donc le plateau, tu es obligé de t'y prendre tout au long de l'année, tu échanges avec les joueurs régulièrement pour essayer de leur proposer un contrat finalement, hein. On est d'accord, pour les faire venir tout simplement, pour être très
Oui,
simple, c'est ça?
c'est ça, c'est un contrat où il s'engage. Nous, on peut travailler sur son image, ça nous permet de communiquer aussi, peut-être de faire des affiches avec les joueurs, de pouvoir créer de la communication aussi pour ouvrir la billetterie, pour nos partenaires, pour toutes ces choses-là. Ça a du sens. Et effectivement, les joueurs, on peut les travailler même d'une année à l'autre ou même des fois sur plusieurs années. Avec certains contrats, on a eu un moment quand on a justement acheté la date en 2009, on avait travaillé avec Joe Wilfried Tsonga pour qu'il soit l'ambassadeur du Moselle Open. On avait fait toute une vague et une série de communications sur plusieurs années où on avait, voilà, puisqu'on a changé de lieu, et on a utilisé vraiment son image pour promouvoir l'événement.
Pour comprendre aussi la différence entre un 250 et un 500, vous êtes, donc tu as évoqué donc les tournois de 250 en France, donc le Moselle Open en 250. C'est quoi finalement? C'est les dotations, la différence principalement?
Alors, pour être très un peu imagé, explicite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ATP, vous imaginez un hôtel sur la côte. Il y a des chambres, il y a des chambres avec vue mer, il y a des chambres avec vue de l'autre côté. Et puis après, plus on monte, plus les chambres vont être grandes et on va arriver aux suites. Et bien ça, le calendrier ATP est fait de la même façon. C'est qu'il y a différentes dates qui ont de la valeur. Et meilleure est la date, mieux on est situé. Et puis après, ben, il y a 11 chambres qui sont des 500. Et puis après, donc, il y a les Masters 1000. Et tout ça, eh ben, c'est en fonction de la qualité de la date. Ou maintenant, une différence entre un 500 et un 250, pour moi, ce n'est pas quelque chose de flagrant. Il vaut mieux avoir un 250 de très, très bonne qualité qu'un petit 500. Et on le voit, par exemple, avec un tournoi comme Hambourg, qui a eu beaucoup de mal. Qui était 1000, qui est descendu 500, et en termes d'équilibre ou autre, qui a beaucoup de mal à amener les joueurs liés à son standing. Après, il y a des 250 qui ont presque des tableaux de Masters 1000. Donc voilà, mais effectivement, il y a quand même une primeur, il y a des joueurs qui sont obligés de jouer certains tournois, mais la réelle différence, c'est entre 250-500. Et les 1000, où là, les joueurs ont l'obligation de jouer ces tournois-là.
Dans l'absolu, tu pourrais faire la demande, toi, à ta date, de passer en 500. Est-ce que c'est un truc qui est possible? Tu aurais le droit? C'est plus une question d'argent dans ce cas?
Mais c'est cette image-là, c'est que une chambre, entre une
D'accord, c'est
chambre
prendre la
et une
suite.
chambre de 250, on ne peut pas la changer en une chambre deux fois plus grande. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'attendre qu'il y ait un 500 qui se libère et donc racheter une date, parce que le tennis, ça fonctionne comme ça. On n'est pas propriétaire d'un tournoi, on est propriétaire d'une date dans le calendrier. Et en fait, les 500, ils sont établis dans les calendriers. Et moi, je ne peux pas dire, même si je fonctionne bien, demain à l'ATP, ben voilà, je veux que le Moselle Open devienne un 500. Il faut qu'il y ait un 500 qui se libère et que je prenne cette date-là pour
D'accord.
m'intégrer dans le calendrier. Donc, s'il n'y a pas de 500 qui sont à vendre sur le marché, eh ben, il n'y a pas possibilité de les acheter et donc pas de possibilité de passer d'un 250 à un 500. Même si on a les infrastructures, même si on a l'argent, même si on a tout ça,
D'accord. Il faut qu'il y ait une place qui se libère.
c'est fixe, il faut qu'il y ait une place qui se libère.
D'accord.
Tout comme pour les
OK.
250 d'ailleurs.
On comprend un petit peu donc sur quoi maintenant l'économie d'un tournoi repose. Alors, on va revenir sur cette année très compliquée, 2020. Le tournoi n'a pas lieu à cause du contexte. Donc, annulation, j'imagine que ça engendre quand même pas mal de difficultés, même pour la suite. Mais déjà, premièrement, enfin, au niveau du calendrier, comment ça se passe, vous, avec l'ATP? On voit que tout est un petit peu remodelé, obligatoirement. On voit des tournois qui sont déplacés. Est-ce que toi, tu dois faire le forcing? Est-ce que les choses se font simplement? Comment ça se passe concrètement pour comprendre?
Déjà dans le tennis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une difficulté, c'est qu'il y a deux entités. Il y a l'ITF et l'ATP. L'ITF, donc, ça réunit les quatre tournois du Grand Chelem et les tournois futurs. Et l'ATP, il y a les 1000, les 500, les 250 et les Challengers. Et jusqu'à maintenant, et à l'ITF, il y a la Coupe Davis aussi. Et donc, jusqu'à maintenant, il y avait des places dans le calendrier, une bonne entente. Mais ce qui s'est passé avec ce Covid, il y a les intérêts de chacun qui rentrent en ligne de compte. Et effectivement, moi, j'étais le premier à être impacté par ça, mais je l'ai fait entre guillemets de bon cœur, puisqu'à un moment, il y a l'économie de tout un territoire et tout un pays par rapport au tennis qui dépendait de ça. C'est à un moment le souhait que Roland-Garros puisse se tenir. Et donc, ils se sont positionnés en septembre, courant de ma date. Et à partir de ce moment-là, c'est un événement de l'ITF. Et comme les tournois majeurs sont quand même les quatre tournois du Grand Chelem, et on le voit là encore avec l'Open d'Australie qui décide de changer de place, si à un moment, ces tournois-là décident de prendre une place dans le calendrier, il n'y a pas d'autre choix que…
Ils sont prioritaires ?
Ils sont prioritaires. C'est une histoire d'influence et de poids. Quand on voit à un moment l'argent qui est réinjecté pour les joueurs d'un point de vue économie, et tu l'as été comme moi, quand on rentre dans les 100, pourquoi on dit on rentre dans les 100 ? Ça veut dire qu'on est dans les tableaux des quatre grands chelems. Ça veut dire que si on est dans des tableaux des quatre grands chelems, quatre premiers tours, ça nous permet de nous payer notre saison. Et ça a beaucoup de sens. Et quand on voit le nombre de joueurs et joueuses qu'un grand chelem et l'argent qui est redistribué en moyenne pour les sportifs, on se rend compte que d'un point de vue économie, les joueurs ont intérêt à jouer les grands chelems. Et donc, automatiquement, il vaut mieux qu'un grand chelem se joue plutôt que deux ou trois autres tournois de catégorie inférieure. Donc voilà, après la nouvelle, on l'a reçue comme on l'a reçue. Maintenant, comme Roland Garros a pu se tenir, je pense qu'auprès de tout le tennis, qu'il soit associatif, que ce soit les clubs, que ce soit les enseignants, les joueurs ou les tournois, la fédération a répondu présent pour essayer d'aider comme elle pouvait tous ces tournois et tout le monde.
Vous avez reçu des aides ?
Bien sûr.
De dédommagement, ouais.
Exactement. Tous les tournois, tout le tournoi, des compensations et des aides et des soutiens sur cette année-là.
Alors maintenant, sur le calendrier 2021, comment ça se passe ? Tu as de la visibilité ? Tu n'en as pas du tout ? Vous discutez déjà ?
Le calendrier, il est sorti très, très tôt, mais avec…
Pas tous les tournois. Enfin, il y a quand même pas mal de changements déjà. Et on a quoi ? On a, en gros, le calendrier jusqu'à mars-avril, même pas ?
Oui, mais celui qui vient après, il est
inchangé ?
Il est inchangé, il est fixe, puisqu'à un moment, tous les tournois qui n'ont pas pu avoir lieu avec justement le changement de l'Open d'Australie, soit les tournois ont été recasés ou tout simplement annulés pour cette année. Donc, l'impact après pour la suite, normalement, si on retombe une fois de plus, parce que c'est l'épée de Damoclès qu'on a tous au-dessus de la tête, c'est qu'est-ce que va devenir à un moment ce Covid ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le tennis, c'est le sport le plus impacté pour une raison très simple, c'est que chaque semaine, c'est 1 000-1 500 personnes qui bougent de ville en ville et de pays en pays. Quand on parle de sport comme le foot, le basket ou autre, ça joue essentiellement dans un pays. Donc, en termes de maîtrise des flux ou autre, c'est beaucoup plus simple que d'organiser un tournoi où on a 30 ou 40 nationalités toutes les semaines qui vont bouger de ville en ville. Donc, c'est pour ça que le tennis est très impacté par cette pandémie. On espère qu'il va y avoir les vaccins qui vont faire effet, qu'on va pouvoir reprendre un mode de fonctionnement, je ne vais pas dire normal, puisque plus rien ne sera comme avant, tout comme quand il y a eu les attentats il y a quelques années. Ce côté sécuritaire pour les tournois, il a fallu apprendre à vivre avec. À titre d'exemple, on parlait de coûts et de finances. Le budget sécurité-sûreté, il y a 5-6 ans, il était de 40 000 euros pour un événement comme le nôtre. Maintenant, on a dépassé les 200 000. Donc, ces choses-là, à un moment, on est obligé de les prendre dans l'équation des tournois et de vivre autrement. Et je pense que cette notion sanitaire, avec justement les barrières, les gels, les vérifications de sites d'un point de vue sanitaire ou autre, ça va être des coûts supplémentaires et des choses qu'il va falloir mettre en place à l'avenir. Mais si on arrive à retrouver une situation à peu près normale, oui, le calendrier sera normalement inchangé sur les deux derniers tiers de l'année.
Juste, donc la date, ça sera quoi, toi, si elle est inchangée, juste pour qu'on puisse la donner?
On sera du 16 au 22 octobre.
16 au 22 octobre. Septembre, après l'US.
Ouais, on sera, après l'US, on sera sur... non, ouais, je te dis pas de bêtises. Si on prend les qualifs, on sera du 19 au 26 septembre.
D'accord. Et quand tu dis justement, aujourd'hui, tu parles de souffrance, hein, évidemment, pour l'économie du tennis dans sa globalité. Là, si... Évidemment, on sait que les choses ne vont pas reprendre à la normale, tu le dis aussi. Donc, même dans ce contexte-là, vous allez réussir, tu penses, à survivre. Ça va pouvoir se faire, jouer et à un moment donné, que ce soit viable, hein, parce qu'il faut que ce soit suffisamment rentable. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les tournois vont pouvoir tenir dans ces conditions ou tu penses qu'il y en a qui risquent de mettre un peu la clé sous la porte? Comment tu vois un petit peu l'avenir là? Alors pour toi, pour ton tournoi, mais d'une manière même un peu plus globale, toi qui es au contact justement des directeurs de tournois au sein de l'ATP.
Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont énormément souffrir. Ça, c'est une certitude. Parce que nous, là, on a en reprenant avec la nouvelle équipe, là, les trois dernières années, on a réussi quand même à assainir beaucoup de choses et avoir une situation, j'ai envie de dire, économique stable, mais ce qui n'est pas du tout le cas de tous les 250. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les 250, c'est la propriété de pas de gros chaînes ou d'agents ou autres. Ce sont vraiment des particuliers du territoire qui sont propriétaires de dates et d'événements. Et effectivement, ça peut être très, très compliqué parce que les structures, souvent, ils ont peut-être un, deux, trois événements maximum. Mais oui, le contexte à venir n'est pas forcément super réjouissant. Alors nous, on va réussir puisqu'on avait un petit peu de trésor et qu'on va réussir à maintenir et à absorber nos coûts de fonctionnement. Mais il faut qu'il y ait un événement 2021 qui se passe. C'est une évidence. C'est une évidence. Et puis, l'équation économique est, pour les 250, elle est quand même très, très, très friable. C'est vraiment la catégorie de tournois qui peut souffrir le plus et qui a le plus souffert ces dernières années.
Tu connais déjà, toi, tu as déjà une idée des joueurs qui viendraient éventuellement sur l'édition 2021 ou pas encore?
Non. C'est rare puisque d'habitude, en sortie d'événement, on commence déjà à travailler avec certains joueurs. Mais là, le contexte est tellement compliqué que pour le moment, non. Après, je suis en lien, bien sûr, avec des joueurs français, des joueurs qui ont l'habitude de venir ou certains autres, mais c'est plus des relations amicales que vraiment un travail sur le plateau à l'heure actuelle.
Si tu parles, c'est en lien finalement avec l'économie un petit peu des tournois. On a entendu dire, tu vois, qu'il pourrait y avoir dans le futur plusieurs évolutions sur le terrain. On peut parler de l'arbitrage électronique maintenant. Enfin, tu sais, on peut du hockey partout, remplacer les juges de ligne, plus de ramasseurs. Enfin, le contexte l'a favorisé en tout cas ces derniers mois, tout ça. En tout cas, on a été obligé de passer par là, ce qui a soulevé quelques débats. Est-ce que toi, tu crois qu'il y a un changement en profondeur à faire? Pas du tout? Quelques changements à la marge? Et si oui, lesquels? Enfin, parce que finalement, tu peux aussi, j'imagine que tu as ton avis, toi, en qualité de directeur du tournoi depuis un certain nombre d'années sur toutes ces questions. Et même en lien, et une dernière aussi, c'est tu avais évoqué notamment, tu viens de le dire aussi, parce que je ne sais pas combien de joueurs sont accueillis par tournoi, mais c'est quand même un paquet, et avec tous les joueurs de double, je sais que ça avait fait un petit peu polémique puisque tu en avais parlé, je te vois sourire, mais c'est vrai que c'est des sujets importants. Enfin, quand tu es directeur de tournoi, tu dois tirer un petit peu sur toutes les ficelles, c'est pas simple de tout contrôler, mais voilà, globalement, si demain si tu voyais le tennis justement, pardon, évoluer, tu le verrais évoluer comment?
Déjà, moderniser un sport en fonction de l'époque dans laquelle il évolue, ça a beaucoup de sens. on se rend compte maintenant qui regarde un match de tennis de A à Z à la télé en restant assis dans son canapé comme je le faisais quand j'avais 20 ans devant Roland Garros ou avant, ça, la façon de consommer a déjà changé. Maintenant, c'est des moments, c'est des highlights, c'est des points chauds, c'est des moments particuliers. Et je vois les enfants, mes neveux, mon gamin, ils vont être là, regarder un truc sur à la télé, un truc sur le téléphone. Ça va être, voilà, c'est très interactif et la demande, elle est beaucoup plus vivante maintenant. Maintenant, revenir sur des évolutions, je pense que des évolutions comme le NOAD ou comme enlever l'aide au service, pour moi, c'est des choses qui peuvent être bénéfiques, puisqu'elles peuvent accélérer le jeu, donner un petit moment de surprise aussi. Voilà, une balle de break, une balle lette, elle peut changer, ça peut donner des moments un petit peu, j'ai envie de dire, voilà, catastrophiques au jeu et donner un petit peu plus d'attrait, le rendre plus dynamique, raccourcir les sets et en faire peut-être plus, pourquoi pas, je ne serais pas exclu. Après, moi, il y a des choses sur lesquelles, voilà, je suis plutôt à cheval. C'est ce qui est humain. Abandonner les ramasseurs de balles, les juges de ligne. Une fois de plus, je le disais, je suis un homme du territoire. C'est des gens que je croise, les gens qui s'occupent de nos ramasseurs de balles, les juges de ligne. C'est des gens qui sont actifs dans le monde du tennis, qui sont très souvent aussi bénévoles, qui s'investissent. Et c'est leur faire prendre part à une fête. Moi, enlever les juges de ligne, les ramasseurs, c'est quelque chose que je trouverais complètement contre-productif, parce que combien de gamins ont été ramasseurs de balles et ont eu des petites vocations qui sont arrivées parce qu'ils ont eu un contact avec un joueur, parce qu'ils ont participé à un événement ou autre. Même moi, j'étais ramasseur de balles à l'Open de Lorraine à l'époque. Donc tout ça, pour moi, d'un point de vue humain, ça a beaucoup de sens. Donc moi, je suis pour les évolutions, mais pas des évolutions avec, voilà, la technologie à tout prix. On voit que l'arbitrage vidéo, que ce soit le Hawkeye ou le Fox 10, et tant mieux qu'il y ait un concurrent maintenant aussi au Hawkeye, ça a du sens, parce que là, je pense, d'un point de vue équité, il y a combien de matchs où il y a eu des moments très délicats. S'il y avait eu l'arbitrage vidéo, et ben, l'issue aurait peut-être été différente. Donc ça a du sens pour apporter de la statistique, pour apporter du contenu. Oui, moi, je trouve que la technologie, elle est géniale pour ça. Maintenant, enlever les arbitres, les juges de ligne, les ramasseurs, moi, je trouve que ce serait pas forcément un bon signal, surtout pour le monde des passionnés.
Ouais. Je comprends, ouais, complètement ce que tu dis, mais après, donc pas de suppression humaine, et parce que finalement, tu as raison, par ricochet, c'est la promotion du tennis localement, et c'est essentiel, et tout ça, on est totalement en ligne. Après, tu n'as pas l'impression que si tu devais, à un moment donné, raccourcir, faire des short sets et raccourcir le jeu, j'entends, hein, par rapport au droit télé, peut-être, certainement, que tu dénatures un petit peu l'essence même du jeu avec la dimension physique et avec la dimension mentale. Tu as l'impression de toucher à des choses qui sont aussi assez essentielles, finalement.
Pour l'avoir vu, par exemple, sur la next gen, au lieu de faire, on fait des 5-7, mais on met en 4, et j'ai trouvé justement ces instants dramatiques d'un match. Et ben, des fins de set, parce que qu'est-ce qui peut être jouissif, c'est ces fins de set. Il sert pour le set, il y a 3-3, 4-4, break, pas break, les tie-break. C'est ces moments-là. Très souvent, j'ai envie de dire, de 1 partout à 3 partout, les sets, ils n'ont pas forcément beaucoup de sens. Mais par contre, si on arrive, au lieu de faire 3 sets, et ben, d'en faire 5 avec 5 intensités sur ces fins de set, pour moi, on ne va pas perdre en termes de temps, puisqu'on va garder les mêmes temps de jeu, donc cette dimension physique, mais par contre, l'intensité et ces moments ces moments décisifs, on va les multiplier dans un match. Donc pour moi, dans ce schéma-là, on n'en perd rien. Maintenant, effectivement, si on fait un 2-7 gagnant et qu'on le fait en 4 jeux ou en 6 jeux, Là, par contre, ce n'est pas la même chose. Mais par contre, si on augmente le nombre de sets pour arriver justement à cette même longueur et augmenter l'intensité, pour moi, ça aurait peut-être ça aurait du sens pour l'avoir là, vécu.
Ouais, mais là, tu t'adresses, donc, là, tu t'adresses ouais, un petit peu au joueur quand même. Je comprends, tu te mets à la place du joueur pour, quand tu dis pour l'avoir vécu, mais tu penses aux spectateurs, aux téléspectateurs et à aller chercher un nouveau public en disant ça. Parce qu'on ne peut pas dire que le tennis ne marche pas ou ne marche plus. Je crois que ça, ce n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que quand tu vois aujourd'hui Roland-Garros, les grands chelems évidemment, mais d'autres tournois, globalement, le tennis ne se porte pas si mal. Alors, OK, la consommation a évolué, tu as raison, il faut peut-être essayer de se conformer un petit peu à ces évolutions, mais est-ce que ce sont des changements aussi radicaux qu'on l'entend? Moi, je ne suis pas certain, tu vois, c'est peut-être des petites choses, encore une fois, à la marge, peut-être pour le rendre un peu plus spectaculaire. Tu parles de dramaturgie, finalement, essayer de trouver ce moyen, justement, de faire transpirer un peu les téléspectateurs un peu plus régulièrement, peut-être, mais... J'ai un petit peu de mal, finalement. Je suis pourtant pour faire tu vois, avancer les choses. Je suis pourtant assez, je pense, progressiste, tu vois, dans le fond, là-dessus. Mais il y a des vrais dangers, tu vois, quand tu entends dire les grands chelems en 2-7 gagnants.
Ça
fait mal.
Oui, non. Après, moi, je te parlais, puis comme je te disais, pour l'avoir vécu, pour avoir été à Milan, voir un petit peu ces tests avec la next-gen. Alors il y a des choses comme j'ai dit, je suis contre. Maintenant, une façon de consommer, imagine, voilà, moi j'ai un match avec deux joueurs, je fais au lieu d'être au meilleur des trois manches, au meilleur des cinq manches, mais avec des sets jusqu'à quatre. En termes de résumé, je vais avoir peut-être cinq fins de set à montrer qui ont justement ce côté émotion, stress ou autre, plutôt que deux. Et on se rend compte que, c'est ce que je te dis, les jeux de 1 à 3, jusqu'à 3 partout, est-ce qu'ils ont un réel intérêt? Non, par contre, en termes de résumé, comme on le disait, ça se consomme, et consommer un résumé de 5 minutes avec justement 5 parties et 5 moments chauds de la rencontre, ça ne gênerait pour moi pas grand chose, justement le temps et le temps de match, et ça augmenterait ces moments justement qui sont clairement identifiés comme les fins de set ou les tie-breaks ou ces choses-là. Maintenant, effectivement, Roland-Garros, tu le mets en 2-7, ça n'a aucun sens, les grands chelems.
Même après, tu vois, quand je t'écoute parler, je rebondis, c'est marrant parce que je me mets aussi à la place des passionnés qui aiment ce jeu d'échecs, qui aiment voir justement ces premiers jeux, tu vois, où tu sèmes, où tu fatigues, où tu vas user, où tu vas essayer de rentrer dans la tête de ton adversaire, où il y a cette dimension aussi psychologique qui peut être hyper intéressante, et qui finalement, ces fins de set dont tu parles, elles se jouent souvent à 2-2, à 3-3. Tu vois, il y a un truc que tu enlèves
bien sûr, aux
vrais passionnés.
Après, ça va être toute la difficulté de repenser entre guillemets certaines choses d'un sport. C'est que si tu veux gagner quelque chose, c'est très rare que tu n'enlèves pas autre chose de l'autre côté. Et effectivement, après, tu te dis, et une fois de plus, il faut laisser le temps au temps, et surtout les joueurs s'adapter, mettre des parades. Mais tu te dis que peut-être sur un système de jeu comme ça, on aura un système peut-être beaucoup plus explosif, beaucoup plus intense. À un moment, tu avais quand même… Et là encore, c'est pour ça qu'il faut raisonner sur plusieurs années. Je pense qu'à un moment, le tennis a fait une grave erreur, c'est de ralentir considérablement les terrains et les balles, parce qu'à un moment, on a perdu un type de jeu qui était peut-être beaucoup plus spectaculaire ou autre. Alors qu'il y avait toute une génération de nouveaux joueurs, comme des mecs comme on parlait de Clément, Grosjean, E8, Agassi, qui ont mis des parades justement pour contrer ces grands serveurs. On se rend compte que maintenant, les grands serveurs, ils se mettent à être beaucoup plus mobiles aussi, à tenir la balle en fond de court, à avoir des jeux beaucoup plus complets. Donc, il faut laisser aussi les générations mettre en place des parades contre les nouvelles stratégies. Si ça se trouve que il y a un joueur qui va arriver et puis qui va faire que des volées de fond de court à 1 mètre ou 1 mètre 50 dans le terrain pour créer des nouvelles choses dans le tennis. Donc apporter trop de changements et rapidement, je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose. Après, réfléchir sur un équilibre, je pense que ça a du sens. Maintenant, comme tu le disais, et je te rejoins, le tennis reste spectaculaire, reste regardé, moi, et on le voit bien. C'est un sport qui plaît et qui ne perd pas forcément d'audience. Mais si on arrive à cette réflexion-là, c'est qu'on s'est posé la question. Et c'est qu'il y a eu des demandes peut-être d'évolution ou de changement. Et le fait justement d'avoir et de pouvoir les tester sur une compétition comme la nouvelle, la Next Gen et autres, c'est une bonne chose. Après, on va être sur des choix, sur des votes. Et on sait très bien que ceux qui vont avoir le plus de poids, c'est les anciennes générations. Et c'est ceux qui sont pas forcément motivés pour un changement parce qu'ils ont joué toute leur vie avec ces règles-là. Alors que sur le principe, il faudrait presque plus demander aux jeunes qui arrivent parce que c'est eux qui vont porter le tennis dans les années à venir. Donc ça aussi, c'est des réflexions à avoir et en termes de concertation et puis faire des études hein, parce que ça se fait hein, après. Hein, c'est pas compliqué, hein, sonder les gens, proposer des alternatives. Moi, j'étais un des premiers, voire le premier à tester les 7 jusqu'à 5 en double. On l'avait fait au Moselle Open. Voilà, tu parlais des joueurs de double, ça c'est aussi pour nous directeurs de tournoi.
Parlons-en.
C'est une des choses à changer parce que c'est plus concevable et ça n'a aucun sens quoi, malheureusement.
Qu'est-ce qui est plus concevable? Qu'est-ce qui a aucun sens quand tu dis ça? C'est quoi d'avoir des tableaux aussi étoffés du genre de double? C'est l'économie encore une fois. Tu reviens à l'économie du tournoi pour le coup ou pas?
C'est en lien. On revient à deux choses. On vient à deux choses. L'intérêt d'une pratique et l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coûts entre guillemets pour les joueurs, enfin je vais dire le tableau de double, ça doit être à peu près 20%, 20-25% du prize money. D'accord ? Et si on raisonne en termes de chef d'entreprise, moi je veux bien dépenser 25% de quelque chose, au moins pour que ça ne m'en coûte pas. Mais là, la situation à l'heure actuelle avec les joueurs de double, c'est que moi, je leur paye des prize money, je leur paye des chambres, je leur paye la nourriture, les kinés, les terrains d'entraînement, les balles, l'électricité.
Parce que c'est obligatoire, parce que c'est obligé que c'est dans le cahier des charges.
Mais bien sûr, mais là, je raisonne en termes d'économie. Et d'entreprise. Il n'y a aucune entreprise qui serait capable et qui prendrait la décision de dépenser de l'argent pour quelque chose qui lui en coûte. Moi, je veux bien dépenser de l'argent pour me faire de la publicité, pour faire ces 25% d'argent. Moi, je préférerais les mettre dans un tournoi junior et mettre les sous pour faire venir les gamins, pour leur payer l'hôtel, pour leur payer l'avion, ainsi de suite. Et puis d'avoir, eh ben, plutôt que des joueurs qui… Alors, tu sais comme moi, alors je vais prendre des scuds, mais on le voit très bien, c'est des joueurs qui doivent jouer moins 2, moins 4, des fois en simple, pas plus. Il y en a qui ont 50 ans, qui prennent $500,000 par an, qui savent juste jouer croisé comme ça, et tu les mets en simple, c'est pathétique. Et ça n'a pas de sens. Et c'est des joueurs, on ne les connaît même pas. Je te demande de me citer le top 10 de double. Et je pense que tu es incapable, à moins que tu mentes ou alors que tu aies la liste devant les yeux. Ça n'a aucun sens. Alors que le double, moi, je suis le premier. Hein. Je trouve que c'est une discipline qui est magique. Elle est géniale. Et nous, on le voit bien. On a cette chance aussi en France. Parce que moi, depuis 2003, j'ai quasiment tous les ans eu une paire française en finale. Et il y avait 2000 ou 3000 personnes qui venaient voir le double. Mais parce que c'était des joueurs, parce que j'avais Mahut, parce que j'avais Gasquet, parce que j'avais Santoro, Beneteau, ainsi de suite. Mais pas parce que j'avais Firstenberg, Matkowski contre Marache, je ne sais pas quoi. Je ne saurais même pas t'en citer un autre. Donc tu te rends compte.
Pavic.
Voilà. Et moi, je ne peux pas concevoir qu'à un moment, des joueurs qui soient 150 en simple, 200 qui gagnent 150 000 $ par an, qui jouent 1000 fois mieux au tennis, c'est pas équitable. C'est pas équitable. Donc, qu'on mette des règles en place que ben, pour faire le double, il faut avoir été dans les 100 en simple, que pour tout ce qu'on veut. Mais moi, je peux te dire que les gens, ils n'ont pas envie de voir ces gens-là jouer au tennis. Par contre, voir des joueurs qui ont un nom, qui sont connus, quitte à ce que se joue un peu moins bien, oui, là, les gens, ils paieraient ou il y aurait du sens pour ces joueurs du double. Et c'était le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Parce que quasiment.
Parce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a un circuit complètement parallèle. Ce ne sont plus du tout les joueurs de simple qui jouent le double, sont des vrais joueurs de double, on est d'accord, et qui finalement n'attirent plus personne parce qu'ils ne sont pas suffisamment connus. En gros, si on devait schématiser, ça serait ça.
Oui, bah, c'est exactement ça. Et une double équité par rapport à nous, organisateurs de tournois, et puis par rapport aux autres joueurs aussi. C'est ça que je ne comprends pas, parce que c'est de l'argent qui est redistribué à l'ATP. Mais à un moment redistribué à l'ATP, même les joueurs de simple, ils en ont plein le dos des joueurs de double. Et on le sait très bien, parce qu'à un moment, ils passent 2 heures par jour chez les kinés, ils réservent les terrains et ils jouent en diagonale, ils font chier tout le monde. Et c'est comme ça. Et les joueurs de simple, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et quand on voit des mecs, et encore plus maintenant, il y a 20 ans ou 25 ans, c'était peut-être pas le cas, mais quand on voit le niveau des mecs qui sont 150, 200 et l'énergie que ça demande pour être 150, 200 à l'heure actuelle, parce que le niveau en simple, parce que le niveau c'est quand même considérablement resserré aussi, et puis que ces mecs-là ils n'arrivent pas à vivre alors qu'ils jouent la carte du simple, et qu'on voit à côté, ben, on va voir les prize money des joueurs de double. Hein. J'ai regardé ceux du Masters. Les gains, ils étaient à 4, 5, 6, 7 millions de dollars depuis le début de leur carrière. Les mecs, ils jouent moins 2, moins 4 en simple. À un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'ils fassent à un moment leur sport et peut-être leur fédération où ils jouent qu'en double, mais ils n'auront pas d'argent. Et là, c'est des joueurs de simple et c'est une économie qui va, eux, les payer. Mais pour quelle raison? Moi, je préfère…
Ça a déjà été évoqué, ça, en réunion de directeurs de tournois, de
tous les directeurs
séparer le simple du double et de créer justement un circuit différent, une discipline différente avec justement leur propre circuit. Ça a été déjà évoqué, ça, de pouvoir organiser juste un tournoi de simple.
Ah bah bien sûr, moi c'est ce que j'ai dit. Moi j'ai dit, je garde, je l'augmente même moi le budget. Mais à la place, j'organise uniquement avec des joueurs ou même avec des anciens. Moi, si j'ai cet argent-là, je fais un tableau de double où je fais venir Santoro, Kuerten, Safin, ainsi de suite. Et puis, mais attends, moi, je suis plus heureux des hommes. Ou alors, eh ben, on fait un tournoi avec des jeunes. Comme ça, les jeunes, on les fidélise, on les montre au public, des jeunes de 16, 18 ans. Et il y a un réel intérêt, on peut le vendre. Moi, je vends quoi avec le tournoi double? Rien. Et ça me coûte de l'argent. Et même, c'est immoral par rapport à tout le monde. Et c'est compliqué. C'est compliqué, puisque là, on est arrivé à un système où le simple est tellement exigeant que les joueurs, ils ne peuvent plus jouer les deux. À l'époque, rappelle-toi, quand à un moment on jouait, tu jouais en simple, tu jouais Ferreira, tu jouais Kafelnikov, tu les retrouvais en double, tu avais Paul Harreus, ainsi de suite, tu avais les Français. Regarde, un mec comme Forger, il était dans les 10 en simple en double. Noah, pareil. Lecomte, pareil. Donc, il y avait du sens. J'ai même joué avec Kuerten en double à l'époque. Donc, ces joueurs-là, ils jouaient simple double et il y avait du sens. Mais là, je ne le vois plus, malheureusement. Alors que c'est une discipline qui est incroyable et tellement spectaculaire, mais il faut qu'il y ait quand même un petit peu des noms derrière ou un côté de communication pour qu'il y ait un intérêt de le faire. Mais, et tous les directeurs de tournoi, à un moment, ils n'en peuvent plus. Hein. Surtout dans une économie qui est compliquée.
On a fait un bon tour d'horizon. On a bien terminé. C'était... Bon double sur la fin.
Mais tu étais vache quand même de lancer sur ça parce que tu savais que tu avais un client.
Je t'ai lancé et je n'ai même pas eu une question à poser, ce qui m'a facilité la tâche. C'est merveilleux. Alors, écoute, je voulais te remercier en tout cas pour ta franchise, pour le coup, vraiment. Et bah écoute, de nous avoir éclairé un petit peu, parce que c'est ce dont nous avions besoin pour essayer de comprendre un petit peu les rouages de l'organisation, de l'économie un petit peu du tennis, de ces tournois. Voilà, merci mille fois, Julien,
merci à toi
pour ces éclairages. C'est cool et bon courage donc pour cette année. On croise les doigts, on espère que ça ira au bout dans de bonnes conditions. Je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter, mais c'est ça, j'imagine, avoir un minimum de public, pouvoir vendre le tournoi, avoir un beau plateau, que les sponsors soient au rendez-vous.
Oui, alors il y a un dernier petit mot, alors je serai très rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière l'économie d'un événement comme le nôtre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait travailler les traiteurs, on fait travailler les gens qui aménagent, les hôtels, ainsi de suite. Et donc, le fait de ne pas organiser un événement comme le nôtre, par exemple, sur un territoire comme chez nous, c'est plus de 4 millions qui ne sont pas réinjectés dans une économie locale. Et 4 millions sur une semaine ou 10 jours, c'est énorme. Et c'est tous ces métiers de l'événementiel qui sont dans des situations qui sont catastrophiques en ce moment. Je pense bien sûr à ceux qui nous mettent à dispo le mobilier, nos traiteurs ou autres, la sécurité et toutes ces choses-là. Et effectivement, c'est compliqué pour nous, mais c'est encore plus compliqué pour eux. Et voilà, j'en profite pour passer un petit message de soutien et qu'on fait tout et qu'on fera tout pour organiser, bien sûr, le Moselle Open et d'autres événements pour reprendre un petit peu la vie et retrouver cet engouement à la fois social et économique.
Merci, c'était des jolis mots pour terminer. Merci Julien. Deep Talk, c'est déjà fini. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter sur toutes les plateformes de podcast. Merci Julien, à bientôt. Ciao, ciao.